C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
C'est un changement radical pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale, la première cause de handicap moteur de l'enfant, puisque pour la première fois, la Haute Autorité de Santé émet des recommandations sur la paralysie cérébrale pour la rééducation, à partir de preuves scientifiques. Alors avec nous, Valentin, papa de Gaspard, rééduqué avec la méthode Habit-Heal. On a aussi Audrey Fontaine, kiné, spécialiste de la question, tout comme le docteur Viro, qui sera avec nous tout à l'heure, qui dirige l'ESCAL, l'hôpital femmes-mères-enfants à Lyon.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Audrey, bonjour.
Bonjour.
Audrey, vous êtes accompagnée d'un papa, Valentin Bazir. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Alors Audrey, on va commencer par vous. La paralysie cérébrale, qu'est-ce que c'est ?
Alors la paralysie cérébrale, elle résulte d'une atteinte neurologique sur un cerveau immature. Donc en pratique, c'est soit un saignement, soit un manque d'oxygène qui va apparaître sur le cerveau d'un tout petit, soit quand il est encore dans le ventre de sa maman, soit au cours de l'accouchement, soit au cours des deux premières années de vie. Donc le plus souvent, c'est un accident vasculaire cérébral qui a lieu dans le ventre de la maman, ou alors il peut y avoir une cause de prématurité, ou alors une difficulté pour respirer à la naissance, un accouchement difficile, et on va se retrouver avec une atteinte motrice plus ou moins grave, et le plus souvent il y aura aussi des troubles associés. Ça peut être des troubles cognitifs, des troubles de la communication, des troubles du comportement, ou alors des troubles sensoriels ou de l'épilepsie.
Oui, oui. On peut avoir un enfant qui fonctionne très bien, qui a juste un tout petit, un léger handicap, et puis un autre qui va ne rien pouvoir faire. Et
exactement, c'est ça vraiment la spécificité de la paralysie cérébrale, c'est qu'on a un très grand éventail des troubles que l'on peut observer. Ça peut aller d'une très légère boiterie difficilement perceptible à l'œil nu à handicap physique très lourd, avec des personnes qui sont obligées de se déplacer en fauteuil roulant électrique.
Oui, et alors ça ne se soigne pas, ça ne se soigne pas. Il n'y a pas de remède.
Hein, c'est... Alors non, on ne sait pas réparer un cerveau qui est lésé. On ne sait pas encore le faire, en tout cas. Donc pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est faire de la rééducation pour réapprendre ou apprendre à bouger et à vivre avec cette lésion cérébrale. Et donc, c'est là-dessus que la Haute Autorité de Santé s'est prononcée, en donnant des nouvelles recommandations pour apprendre à faire cette rééducation,
oui,
auprès de ses enfants et
justement,
adultes.
Justement, vous avez fait partie de ces travaux, la Haute Autorité de Santé, puisque vous êtes spécialiste de la prise en charge de la paralysie cérébrale. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique de la Fondation Paralysie Cérébrale, Audrey. Alors, ces travaux, pourquoi ont-ils été effectués ? C'est parti de quoi ? Et comment ça s'est déroulé ?
Alors, il faut remonter quelques années en arrière. Il y a eu l'enquête ESPACE qui avait rassemblé les témoignages d'environ 1000 personnes atteintes de paralysie cérébrale en France et de leurs familles, de leurs aidants. Et on s'était en fait rendu compte que globalement, les personnes atteintes de paralysie cérébrale étaient peu satisfaites de ce qui leur était proposé en termes de rééducation en France. On s'était aussi rendu compte que, quelle que soit leur atteinte physique, il leur était proposé deux séances de rééducation d'une demi-heure par semaine. Et oui, ça, c'était quel que soit leur âge et quel que soit leur besoin, c'était pas modulé. Et donc, en fait, à partir de là, il y a eu ce qu'on appelle une co-saisine, c'est-à-dire que la Fondation Paralysie Cérébrale, avec d'autres associations, l'Association Paralysie Cérébrale France, l'Ordre des Kinésithérapeutes, etc., ont demandé ensemble à la Haute Autorité de Santé de se pencher sur cette question de la rééducation-réadaptation des enfants, adolescents et adultes avec paralysie cérébrale, pour avoir des lignes de conduite et que l'ensemble des rééducateurs en France travaillent dans le même sens.
Oui, oui. Alors, avant de vous demander quels étaient les résultats de ces travaux de la Haute Autorité de Santé, Valentin Bazir, vous qui êtes papa de Gaspard, qui a 6 ans et demi aujourd'hui, racontez-nous un petit peu comment vous êtes aperçu de cette paralysie cérébrale chez votre fils, et quel impact ça.
D'accord. Alors, bonjour, déjà merci de nous recevoir. On s'est aperçu de la paralysie de notre fils, enfin du handicap de notre fils, environ à l'âge de... On a commencé à avoir des premiers troubles à l'âge de 6-8 mois, quand il a commencé à ramper. On a vu qu'il utilisait plus son côté droit que son côté gauche. On a vu plusieurs pédiatres et on a pu mettre un mot sur son handicap à un an et demi. Pas avant. Parce que beaucoup de pédiatres nous disaient que ça allait s'arranger, que c'était dû à la croissance de l'enfant. Et en fait, un pédiatre nous a demandé d'aller passer un IRM. Et l'IRM a décelé, en fait, tout simplement un vaisseau qui avait explosé dans le cerveau de notre enfant. Donc, on a pu mettre un mot sur le handicap et sur cette paralysie cérébrale.
Oui, oui. Et alors, aujourd'hui, vous faites de la rééducation avec votre enfant. On va en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce que votre enfant peut faire aujourd'hui?
Alors,
et ne pas faire?
Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire beaucoup de choses. Heureusement, grâce à un accompagnement sans faille de ses rééducateurs. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? Il a encore du mal, par exemple, à s'habiller ou à se déshabiller. Il peut le faire tout seul, mais ça lui demande un peu plus de temps. Mettre ses chaussures, c'est compliqué. Ça, il lui faut de l'aide. Même avec des chaussures larges et adaptées, il lui faut quand même encore un peu d'aide. Il fatigue plus vite que les enfants non atteints de paralysie cérébrale. Par exemple, on lui a acheté un vélo récemment. Il a tendance à se crisper, notamment à se crisper du côté gauche, oui. Ce qui fait qu'il fatigue beaucoup plus vite. Mais sinon, il est en scolarité, il suit une scolarité normale, il peut faire tout ce que les autres enfants font.
Oui, oui. Et il fait de la rééducation. Hein.
Oui.
Et Audrey, justement, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est la rééducation. Alors, il y en a plusieurs, mais l'une des plus importantes, c'est la rééducation habituelle.
Alors, c'est la rééducation intensive, les stages de rééducation intensifs, effectivement, dont Gaspard a bénéficié déjà à deux reprises.
Et alors, ces recommandations, donc cette rééducation intensive, c'est la méthode habituelle ou c'est plusieurs méthodes? Il y en a une ou plusieurs?
Alors, en fait, les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé se basent sur la littérature scientifique internationale. Et donc, cette Haute Autorité de Santé ne s'est prononcée que sur les programmes de rééducation qui ont été validés dans la littérature. Donc, avec des moyens de recherche importants et qui doivent être mis en place. Et du coup, pour l'instant, les programmes hautement validés dans la littérature, c'est Habit et Habitil. Il y a quand même des grands critères qui semblent se détacher. Donc cette recommandation doit être intensive en termes de quantité horaire sur deux semaines, en moyenne entre 60 et 90 heures de thérapie motrice sur deux semaines, en fonction de l'âge de l'enfant. C'est beaucoup, c'est énorme. Cette rééducation doit être basée sur des objectifs fonctionnels qui vont être codéterminés avec l'enfant et sa famille. Par exemple, ça peut être apprendre à fermer son manteau tout seul, apprendre à faire du vélo tout seul, apprendre à marcher, apprendre des objectifs fonctionnels vraiment orientés sur la vie quotidienne de l'enfant et ses activités pour être autonome.
Et alors ça, c'est la méthode de la rééducation Habit ou Habit-il?
Exactement.
Voilà, il n'y en a pas d'autre qui est recommandée, c'est la meilleure?
C'est la seule qui est validée pour l'instant dans la littérature, donc il y a certainement d'autres protocoles qui fonctionnent certainement très bien, mais pour l'instant ils ne sont pas validés dans la littérature. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il faut en moyenne entre 60 et 90 heures sur deux semaines de la thérapie ludique orientée vers la tâche et basée sur des objectifs fonctionnels.
Voilà, voilà. Alors, j'allais dire Gaspard, mais Gaspard, c'est votre fils, ouais. Valentin. Gaspard, il a bénéficié rapidement, vers quel âge, de ces séances de thérapie, de rééducation Habit ou Habit-il?
Alors, il a fait son premier stage en 2019 et un second stage ensuite en 2021.
Donc, il avait quel âge au début?
Alors, en 2019, il avait 4 ans.
Oui.
Quasiment 4 ans, quoi. Donc ces stages, je tenais à préciser ce que disait Audrey, donc c'est des stages de rééducation intensive mais non vécus comme tels par l'enfant. C'est vraiment des stages basés sur du jeu, donc en fait l'enfant joue pendant deux semaines, c'est là toute la force du stage, c'est qu'il n'a pas l'impression de faire de la rééducation, tout est fait dans le jeu par les équipes encadrantes.
C'est-à-dire qu'on va le faire jouer au ballon, à la balle
Exactement, on va lui faire faire des jeux de rôle type le nom d'un célèbre fort où il y a des épreuves, Fort Boyard par exemple. Et tout ça en fait dans le but d'atteindre les objectifs. Donc les objectifs sont définis donc avec l'enfant. Donc l'enfant aussi a son mot à dire dans ce type de rééducation. Et vu que les objectifs sont définis par lui, il adhère totalement à ses objectifs, donc il a une motivation importante. Nous, parents, on est contents parce qu'on est aussi acteurs, parce qu'on aide aussi à la définition de ces objectifs. Le rôle des thérapeutes sur place, en fait, c'est d'atteindre l'objectif en faisant la répétition des mouvements de manière croissante, c'est-à-dire du plus facile au moins facile. Voilà, et c'est dans la répétition, en fait, que l'enfant va intégrer le mouvement. Et donc, à la fin, ça induit des changements moteurs et fonctionnels pérennes dans le temps. C'est la grande force de la méthode Habit-Heal. C'est que nous, dès le premier stage en 2019, par exemple, on avait défini comme objectif avec Gaspard et les thérapeutes de fermer une fermeture éclair. Avant le stage,
donc,
il n'y arrivait pas.
À 4 ans, vous lui avez dit, on va avoir cet objectif. Il a accepté, il était d'accord et il a appris, surtout ce stage, à fermer sa fermeture tout seul.
Exactement. Voilà, il a appris à faire du tricycle aussi. Donc à l'époque, c'est vrai que pédaler pour lui, c'était très compliqué. Donc par différents jeux, je ne me souviens plus exactement desquels, Gaspard a réussi cet objectif. Et aujourd'hui, il arrive même à faire du vélo à deux roues.
Oui, tout seul.
Tout seul.
Sans roulette. Voilà, très bien.
Donc grâce à ces stages, les gros avantages de ce type de stage, en fait, c'est que ce sont des stages faciles à vivre pour l'enfant. Ces stages se font en groupe, c'est-à-dire que tous les enfants sont réunis dans une salle, dans une grande salle. Donc il y a un effet de groupe qui se crée, donc ça crée une motivation supplémentaire pour l'enfant. Il y a aussi un échange constant entre les professionnels, entre eux, et entre les professionnels et les parents. Et le gros avantage de ce type de stage qu'on n'avait pas vu, auquel on n'avait pas pensé en les faisant, c'est que Gaspard a vraiment gagné en autonomie, bien sûr, mais aussi surtout en confiance en lui.
Oui. Voilà. Et alors, je m'adresse à Audrey, vous qui êtes kiné spécialiste de cette méthode et de la rééducation pour la paralysie cérébrale, ce qu'on a obtenu en 2 semaines ou enfin, en 90 heures de kiné, on n'aurait pas pu l'avoir en sur un temps plus long avec des heures de kiné ?
Non, parce que c'est vraiment l'intensité dans un temps court qui fait que l'apprentissage moteur peut avoir lieu et que les progrès peuvent être vraiment là et, comme le disait le papa de Gaspard, de manière pérenne dans le temps. C'est-à-dire que quand on fait de la rééducation, par exemple, une ou deux séances par semaine pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour l'instant, la littérature tend à montrer qu'au moment où on arrête la rééducation, on a tendance à perdre en fait, les acquis moteurs obtenus.
Oui.
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé ont aussi donné plein d'autres recommandations en termes de rééducation de la paralysie cérébrale et j'avais envie un petit peu de les résumer. Déjà, la Haute Autorité de Santé a rappelé qu'il était hyper important que tous les professionnels de rééducation évaluent la douleur des personnes atteintes de paralysie cérébrale parce que ce sont des personnes qui sont souvent douloureuses et donc c'était important de l'écrire pour que ce soit beaucoup plus fait. Une fois que cette douleur est évaluée, elle peut être prise en compte et soulagé, on l'espère. La Haute Autorité de Santé a aussi écrit que ce soit au cours de stages intensifs de rééducation ou dans de la rééducation au long cours comme on connaît, la rééducation doit toujours être basée sur des exercices ludiques et orientée sur des activités fonctionnelles et du quotidien, toujours basée sur des objectifs co-construits avec les familles. Il est aussi écrit dans ces recommandations qu'on ne doit plus proposer d'étirements passifs et de postures pendant la journée à ces enfants et à ces adolescents et adultes atteints de paralysie cérébrale, d'autant plus que souvent,
c'est-à-dire
alors par exemple faire des étirements de certains muscles en passif, c'est-à-dire c'est le kinésithérapeute qui positionne l'enfant, l'adolescent ou l'adulte avec paralysie cérébrale pour l'étirer. La Haute Autorité de Santé a écrit que ces pratiques ne donnaient pas des gains d'amplitude et des gains de fonction sur le court terme et sur le long terme, qu'en plus ça pouvait être source de douleur pour ces personnes,
oui.
Et que du coup
oui.
Il fallait plutôt s'orienter sur des thérapies actives de type renforcement musculaire en particulier, et que ce renforcement musculaire devait avoir lieu plusieurs fois par semaine et toujours orienté vers la tâche. C'est-à-dire que plutôt que d'entraîner à se renforcer le quadriceps en faisant, comme à la salle de sport, par exemple, des squats ou pousser de la fonte pour renforcer un quadriceps, il était plus pertinent, par exemple, de faire des répétitions de lever d'une chaise, donc ce qu'on appelle des assis debout, pour renforcer le muscle en fonctionnel. Ou alors d'encourager la personne à monter, à faire des répétitions de monter et descendre d'escalier pour renforcer ses membres inférieurs en fonctionnel.
Très bien. Et ben, on va continuer à expliquer ces méthodes. Alors, vous parliez de méthode habit ou habit-il. Il y a une différence entre les deux ?
Oui, il y a une différence entre les deux. La différence, c'est que la méthode habit concerne les membres supérieurs et les activités bimanuelles, alors que la méthode habit-il inclut aussi les membres inférieurs dans la rééducation.
D'accord.
Et le tonus postural aussi.
Et le tonus postural, Valentin.
Tout à fait.
Ouais. D'accord. Donc, et pour vous, pour votre fils, les deux sont utiles ?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Vous vouliez ajouter
Oui, en fait, dans la paralysie cérébrale, quand il y a une atteinte des membres inférieurs et des membres supérieurs, ou alors d'un membre inférieur et d'un membre supérieur, il y a aussi, dans la plupart des cas, le tronc qui est aussi atteint, avec une faiblesse en fait, des muscles dorsaux et abdominaux. Et pour les personnes qui présentent une quadriparésie, donc avec l'atteinte des quatre membres, il y a aussi souvent une faiblesse au niveau de la sphère cervicale et orobuccale, avec des troubles de la déglutition et de l'élocution. Donc en fait, le travail moteur sur cette zone permet d'améliorer aussi toutes ces fonctions.
D'accord. Et ben, on va continuer avec vous, Audrey Fontaine, kiné, spécialiste de la paralysie cérébrale. Valentin Bazir, vous qui êtes papa de Gaspard, 6 ans et demi, qui est atteint de paralysie cérébrale, mais qui travaille dur pour surmonter tout ça. On aura tout à l'heure au téléphone docteur Carole Vuillereau, qui est à Lyon et qui justement travaille beaucoup sur ses méthodes et sur ses avancées scientifiques.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Et on parle de paralysie cérébrale aujourd'hui sur Vivre FM jusqu'à 13h45. On en parle avec des spécialistes, avec un papa, le papa de Gaspard, qui est atteint de ce handicap, la paralysie cérébrale, depuis tout petit, qui le gêne sur une partie de son bras et de sa jambe, de sa mobilité, donc sur l'un des hémisphères. Et puis nous sommes avec Audrey Fontaine, qui est kiné spécialiste. Vous êtes kiné à Paris, hein, c'est un établissement particulier spécialisé sur la paralysie cérébrale ?
Oui, exactement. Donc, c'est un cabinet libéral de rééducation pluridisciplinaire. Donc, nous sommes des kinésithérapeutes, des orthophonistes, une ergothérapeute. Et donc, on s'occupe exclusivement d'enfants et d'adultes qui présentent des handicaps neurologiques et en particulier de la paralysie cérébrale. Ça s'appelle le cabinet à pattes géants.
Oui. Et il faut être spécialisé justement pour bien prendre en charge ces handicaps.
C'est vrai que le bagage que l'on a quand on sort d'école de kinésithérapie ou d'orthophonie ou d'ergothérapie, la plupart du temps ne suffit pas pour accompagner au mieux ces personnes dans leurs spécificités. Donc c'est nécessaire de se former auprès d'autres soignants et professionnels de la rééducation ou de faire de la formation continue.
Oui, c'est ce que vous avez fait.
Tout à fait.
Voilà. On a en ligne Carole Vuillereau. Bonjour Carole.
Bonjour.
Vous êtes docteur, vous êtes à Lyon et vous êtes spécialiste de la rééducation. Vous dirigez toujours l'ESCAL, l'hôpital femme, mère, enfant à Lyon. Et vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondation Paralysie Cérébrale. Alors si on vous appelle aujourd'hui, c'est parce que vous avez mis en place plusieurs stages de rééducation intensive habit-il. Et ces stages de rééducation, c'est une méthode, c'est vraiment la méthode qui aide les enfants atteints de paralysie cérébrale dans leur rééducation. Il n'y en a pas d'autre, c'est vraiment la méthode. Carole, vous m'entendez ? Attends, je crois qu'elle ne nous entend plus. Donc on va essayer de la rappeler, on va la rappeler tout de suite, voilà, et puis pour qu'elle puisse répondre à nos questions, Carole Vuillereau, donc qui travaille à Lyon, qui dirige l'ESCAL, et qui travaille de façon étroite avec les équipes, les parents qui ont des enfants qui souffrent de paralysie cérébrale. Est-ce qu'on l'a récupéré ? Non, non. Alors, Valentin, excusez-moi, le papa de Gaspard, vous avez essayé pour votre fils la rééducation typique, le kiné typique, et ça donnait quoi ?
Bien sûr, ça a donné, déjà ça permet que son handicap ne s'aggrave pas. Voilà, après comme le disait Audrey tout à l'heure, et à juste titre, notre fils là, actuellement bénéficie de deux séances de kiné par semaine. Deux séances de kiné par semaine, c'est malheureusement insuffisant.
Oui.
Voilà, par rapport, quand on compare ça avec un stage intensif type habit-il, voilà, ça permet de limiter la casse, c'est sûr, mais ça permet pas à l'enfant de progresser. C'est encore insuffisant.
C'est-à-dire qu'il ne progresse plus là.
C'est-à-dire que alors il grandit, il progresse, mais Je pense que si il pouvait bénéficier de stages intensifs une fois par an, la progression serait encore, encore plus fulgurante.
Oui, il suffirait d'une fois par an, à votre avis ?
Oui, je pense minimum, minimum une fois par an.
Oui, oui.
C'est sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que malheureusement, ça représente pour les parents un coût financier important.
Vous avez payé, vous, les deux stages que votre fils
Alors,
a fait ?
Alors, non, on a eu la chance, en fait, de faire ces stages via des protocoles de recherche, dont un qui avait été financé via le projet CAP, donc par la Fondation Paralysie Cérébrale. Après, on a quand même eu le logement à payer sur place. Après, c'est des stages qui coûtent quand même plusieurs milliers d'euros.
Oui, puisque vous êtes allé à l'étranger.
Oui, à Bruxelles, oui. Mais voilà, mais même en France, si vous voulez, il y en a à Brest, à Angers, il n'y en a pas à Paris, par exemple.
Oui.
Donc voilà, il n'y en a pas encore assez en France. Et donc, il y a l'hébergement à gérer. Ça demande aussi un coût important en termes d'investissement, parce que ça demande à ce que les parents soient présents.
Les deux parents ou...
Non, au moins un pour faire la logistique. Donc voilà, donc il faut prendre 2 semaines de vacances pour les parents qui travaillent. Voilà, et la dernière chose que je voudrais dire, c'est juste aujourd'hui, il faut absolument que les professionnels de santé, que plus de kinés se forment aux méthodes de thérapie intensive.
Oui, que quand vous en parlez aux kinés que vous pouvez rencontrer, ils ne connaissent pas,
non.
C'est ça ?
Non, il y en a peu encore qui connaissent, il y en a peu qui sont sensibilisés sur le sujet. Comme l'a dit Audrey tout à l'heure, beaucoup de kinés sont encore sur les anciennes méthodes.
Et ces anciennes méthodes, elles ont été faites sur votre fils ?
Oui, bien sûr.
Et ça donnait quoi ?
Bien sûr, ça donne moins de résultats que via les méthodes de rééducation intensive, clairement.
Oui. Et la rééducation intensive, ça peut être fait que par des professionnels sur un temps limité. Vous, Valentin, vous ne pourriez pas faire ce que vous voyez faire sur votre fils.
Non, j'aimerais bien, mais je n'ai sûrement pas les compétences pour.
Oui. C'est dangereux, il ne faut pas se lancer, Audrey.
Dangereux, non, parce qu'en fait, c'est du jeu. Hein, donc, c'est jamais dangereux qu'un parent fasse du tricycle ou joue au ballon avec son enfant. Mais quand même, je pense qu'il faut un certain recul sur les acquisitions motrices, la neuromotricité, pour pouvoir amener les progrès de manière progressive et gérer cette rééducation et ces progrès sur les 2 semaines.
Oui. On va faire une pause musicale et puis on revient avec vous. On va essayer d'avoir le professeur Vuiro, le docteur Vuiro, qu'on essaie d'avoir depuis tout à l'heure, voilà, qui est à Lyon et qui va nous expliquer plus de choses sur la rééducation intensive et aussi sur le sport adapté.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Et jusqu'à 13h45, nous parlons de paralysie cérébrale, des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la rééducation. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la rééducation de ces enfants qui souffrent, qui ont un lourd handicap, parfois très très lourd. On en parle avec nos invités, Audrey Fontaine, kiné spécialiste, Valentin qui est le papa de Gaspard, qui est atteint de paralysie cérébrale, et puis avec le docteur Carole Vuiro qu'on a retrouvé. Bonjour Carole. Non, on l'a perdu de nouveau. On l'avait tout à l'heure. Carole, vous m'entendez ?
Oui, très bien. Bonjour.
Voilà, bonjour. Donc, vous dirigez l'ESCAL, l'hôpital femmes-mères-enfants à Lyon. Et vous avez mis en place des stages de rééducation intensive à Bithil. Alors, on a expliqué ce que c'était. Est-ce que c'est vraiment la méthode pour vous qui est la meilleure et la seule méthode qui peut aider ces enfants qui souffrent de paralysie cérébrale ?
Alors, c'est une méthode qui est efficace, comme les recommandations ont pu le mettre en lumière, parce que c'est surtout une méthode qui a pu être évaluée par des protocoles de recherche et qui a pu montrer de façon significative une amélioration de la fonction motrice des enfants qui pouvaient en bénéficier. Est-ce que c'est la seule méthode ? J'en suis pas sûre, mais ce dont je suis certaine, c'est que des recherches doivent être développées dans ce domaine, pour tester peut-être d'autres méthodes complémentaires qui pourraient apporter des améliorations fonctionnelles chez ces enfants.
Oui.
Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette méthode et je pense que la première étape est d'en faire bénéficier au maximum les enfants.
Oui, alors vous la mettez en place, cette méthode. Qu'est-ce que vous voyez concrètement ? On parle d'études scientifiques. Il y a un réel progrès qui est fait en quelques heures.
ah non, on part en quelques heures, non, non, il y a rien de magique hein, avec cette technique de rééducation. C'est des rééducations qu'on dit, mais Audrey Fontaine a dû bien en parler, qu'on appelle intensives, puisqu'elles imposent un nombre d'heures suffisant de rééducation par jour sur plusieurs jours. Et alors effectivement, les études montrent des efficacités significatives, mais nous, au quotidien, on voit les enfants améliorer à l'issue des séjours qu'ils réalisent. Des améliorations que l'on identifie sur des objectifs prédéfinis avec eux et qui sont très contents vu qu'ils sont prédéfinis avec eux, ces objectifs, c'est que c'est des objectifs importants pour leur fonctionnement et donc on voit très bien comment eux, les enfants et leurs parents sont heureux de l'atteinte de ces objectifs.
Oui, donnez-nous quelques exemples de ces objectifs.
Oh ben, il y en a souvent qui apparaissent, qui viennent comme objectif, c'est le vélo, l'apprentissage du
oui,
vélo.
Moi, oui.
C'est celui qui vraiment apparaît le plus signifiant pour les enfants. Et on a des efficacités très importantes de ces séjours habitiles pour permettre d'acquérir la possibilité de faire du vélo tout seul, sans roulette, avec un vélo parfois normal. On a aussi dans le quotidien la possibilité de se brosser les dents tout seul le soir sans avoir besoin de ses parents. J'avais une petite fille qui voulait absolument éplucher des kiwis à l'école parce qu'elle était gênée qu'elle ait besoin de demander de l'aide pour éplucher le kiwi. Puis après,
oui.
On s'est rendu compte que finalement, elle n'aimait pas les kiwis.
Donc,
on a pris un autre objectif. Mais vous voyez, c'est des objectifs qui sont centrés sur le quotidien des enfants et sur les difficultés qu'ils ressentent au quotidien
oui.
Par rapport aux autres.
Oui, oui. Et alors il y a le sport, bien sûr, le vélo, apprendre à faire du vélo. Ça aide beaucoup, le sport adapté.
Et oui, ça fait partie aussi de ces recommandations. C'est sorti aussi hein, sur des rangs très élevés. Il faut faire bouger les enfants. Les enfants en situation de handicap avec une paralysie cérébrale sont des enfants comme les autres. Et comme tout le monde, ont besoin de faire un niveau d'activité physique important dans la semaine et de façon régulière. Et comme cette activité physique, elle doit être adaptée, on doit faire appel à des professionnels qui sont les moniteurs en APA ou les enseignants en APA.
Oui, on ne peut pas aller dans un club de tennis, de natation lambda et y emmener son enfant ?
Si, on peut, hein. Bien sûr qu'on peut et on développe ça, mais souvent on a besoin de l'accompagnement des APA, surtout pour sensibiliser les clubs de proximité du domicile à l'accueil des enfants en situation de handicap pour finalement dédramatiser, mais bien sûr, hein, bien sûr que les enfants avec paralysie cérébrale peuvent avoir accès à tous les clubs sportifs. Simplement, il faut qu'ils rencontrent des gens accessibles qui soient capables d'adapter un petit peu leurs activités au niveau fonctionnel de l'enfant.
Oui, oui, donc le sport adapté, c'est très important, on le comprend. Valentin, votre fils Gaspard, il fait du sport adapté aussi ?
Il fait du sport, il a fait du judo dans un club normal avec des enfants non atteints de handicap et maintenant il fait du tennis.
Voilà, le judo, ça se passait bien, non ?
Le judo, oui, oui, ça se passait bien. Alors après, c'était du judo pour enfants. Donc voilà, il n'y avait pas de prise à proprement dit. Mais oui, oui, ça se passait bien.
Oui.
Et maintenant, il s'est mis au tennis. On essaie de trouver des sports qui font vraiment fonctionner l'ensemble de son corps. Et notamment, le tennis, ça l'aide surtout à la coordination des mouvements.
Oui. Voilà. Le tennis, c'est bien, docteur Vuillereau ?
Oh, le tennis, c'est bien. Alors, oui, c'est très bien le tennis, mais ce qui est surtout bien, c'est de trouver un sport qui correspond aux envies de l'enfant.
Oui, faut pas l'obliger.
Et puis, en fait, au contexte de sa famille. Parce que faire du sport, c'est faire fonctionner son corps, bien sûr, mais c'est aussi favoriser le fait d'être avec les autres et le fait d'être inclus dans la société et la vie. Donc, moi, je n'ai pas de sport de prédilection. Souvent, on prend un temps avec notre APA pour discuter avec l'enfant, avec ses parents, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils font au quotidien. Et voilà, et on s'adapte en fonction pour trouver une activité sportive qui leur plaise.
Oui. Docteur Vuillereau, vos stages de rééducation intensive habitiles, c'est jusqu'à quel âge ça peut être profitable à un enfant ? Est-ce qu'un adulte pourra en profiter ?
Alors, il y a quelques initiatives hein, qui ont été mises en place chez l'adulte. Je n'ai pas d'expérience, mais il y a quelques initiatives dans la littérature. Je ne vois pas pourquoi un adulte ne pourrait pas en profiter. On sait qu'il y a une plasticité cérébrale qui est également présente chez l'adulte, donc je ne vois pas pourquoi. Quant aux enfants, nous, le prochain stage est pour les tout petits, enfin pour les plus petits, jusqu'à 6 ans. Donc on va organiser ce stage dans un CAMS en collaboration avec les professionnels d'Odinéo.
Oui.
Et puis le deuxième séjour, il est entre 6 et 15 ans. Donc voilà, alors on met 15 ans parce qu'il faut bien mettre une limite, mais je ne vois pas vraiment de limite théorique hein, pour pouvoir faire ce type de rééducation.
Oui, si on est aidant parent d'un proche qui est adulte, qui a, je ne sais pas, 30 ans et qui est atteint de paralysie cérébrale, il faut quand même le pousser à faire du sport adapté, par exemple.
Ah, le sport, oui, c'est quand j'ai dit un enfant avec PC est un enfant comme les autres, ben un adulte avec PC est un adulte comme les autres. Donc comme les autres, il doit avoir accès au sport et à l'activité physique qui a été montrée comme pourvoyeur de bonne santé dans la population générale.
Oui.
Donc oui, un grand oui.
Et Carole Viraud, une dernière question. Ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc qui recommande ces stages de rééducation intensive habit-il, est-ce qu'elles vont vous amener de nouveaux financements pour de nouvelles séances ? Est-ce que vous aviez du mal auparavant justement à justifier l'intérêt de ces séances ?
Alors oui, on a du mal puisque comme vous l'avez dit. C'est un nouveau paradigme. C'est que on se retrouve avec beaucoup de rééducateurs, hein, rééducateurs par enfant. Donc une impossibilité actuelle de financement par le système de sécurité sociale actuel.
Oui.
Donc on est obligé d'inventer et on a réussi à inventer hein, des collaborations avec le médico-social et avec Odinéo, des projets de recherche hein, dans certaines villes comme Brest et Angers. Ils organisent des séjours dans le cadre de projets de recherche. Mais oui, à ce jour, il n'y a pas de moyen de financement de ces séjours habit-il. Donc on espère que la sortie des recommandations permettra d'évoluer à ce niveau-là et d'avoir des budgets publics pour permettre d'organiser plus de stages puisque aujourd'hui on n'arrive pas du tout à couvrir la totalité, enfin à offrir une place en stage pour la totalité des enfants avec paralysie cérébrale en France.
De grosses listes d'attente.
Il y a une grosse liste d'attente et voilà. Ce que je voulais aussi dire, c'est l'importance de continuer à développer, alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, continuer à développer les recherches autour de la rééducation dans la paralysie cérébrale. Et ces recherches sont possibles grâce à des soutiens financiers. Alors on a beaucoup bénéficié des soutiens de la Fondation Paralysie Cérébrale, hein, qui a un appel à projet pour la paralysie cérébrale.
Oui.
À ma connaissance, il n'y a pas énormément d'appels à projet qui dédient à cette pathologie. Donc on essaye, nous, au niveau hospitalo-universitaire, d'encourager les recherches dans ce domaine et surtout les appels d'offres dirigés vers la paralysie cérébrale.
Oui, oui. Alors les choses avancent, mais il faut encore travailler, il faut encore mener des recherches, c'est important.
Oui, c'est très important parce que habit-il, c'est bien, mais il y a peut-être d'autres choses qui pourraient améliorer l'état fonctionnel de ces enfants.
Très bien. Merci, docteur Viraud. Je rappelle que vous êtes à Lyon, vous dirigez l'ESCAL, l'hôpital femmes-mères-enfants, et vous avez mis en place des stages de rééducation intensive habit-il. Merci de votre témoignage et je vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Audrey, vous vouliez continuer sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. On a parlé du sport adapté, mais il y en a d'autres.
Oui, merci beaucoup. Je souhaitais rebondir sur ce que disait le docteur Villereau en parlant des adultes avec paralysie cérébrale. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une grande nouveauté. C'est que pour la première fois dans le monde, on établit en France des recommandations de bonne pratique pour ces adultes atteints de paralysie cérébrale. Parce que quand on a une atteinte de ce type, quand on est enfant, on grandit avec et on devient un adulte en situation de handicap. Et donc, ce qui est écrit dans ces recommandations, c'est que oui, les adultes aussi, au même titre que les enfants et les adolescents, doivent avoir accès à une rééducation adaptée avec du renforcement musculaire, avec du réentraînement cardio-respiratoire à l'effort et avec des activités physiques adaptées.
Oui, mais le problème, c'est que ça a un coût.
Le problème, c'est que ça a un coût, oui, mais il y a quand même des choses qui sont accessibles déjà pour eux. Rien que le fait qu'ils aient accès à de la rééducation dans des cabinets libéraux de ville, c'est déjà pas quelque chose qui est acquis pour tous.
Oui, oui.
Et que dans ces cabinets, ils aient accès à des thérapies actives et pas que à des mobilisations et à des étirements, c'est pas encore le fait pour tous. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit entrer dans les bonnes pratiques actuelles en rééducation, c'est que tous ces adultes en situation de handicap plus ou moins lourd, on doit leur proposer de pouvoir bouger leur corps eux-mêmes de manière active, d'être essoufflés et de prendre du plaisir à ça en leur donnant la possibilité avec des outils ou du matériel adapté de se fatiguer et de faire de l'activité physique. Il y a une dernière chose que les recommandations de bonne pratique ont mis en avant, c'est que la personne atteinte de paralysie cérébrale, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, doit être au cœur et mène son projet de rééducation au travers de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que l'ensemble de ces rééducateurs et de ces médecins doit prendre connaissance de ce que c'est cette paralysie cérébrale et quels sont les moyens qui sont à sa disposition pour mieux vivre avec ce handicap et devenir vraiment un acteur dans sa rééducation en faisant par exemple de l'autorééducation, en mettant dans son quotidien les bonnes manières de vivre avec ce handicap au mieux, avec le moins de douleur possible, le plus d'autonomie possible et le plus de bonheur possible.
Oui, on l'espère pour Gaspard en tout cas. Valentin, Gaspard, il n'aura jamais l'autonomie d'une personne qui n'a pas eu de paralysie cérébrale.
C'est sûr.
Alors, l'autonomie, si, parce qu'il est, Gaspard a vraiment une paralysie cérébrale plutôt légère. En tout cas, maintenant, grâce à toute la rééducation qu'il a pu faire et l'investissement très important de ses parents, Gaspard, il est autonome, il sera toute sa vie autonome. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que Gaspard, comme il le dit, il ne sera jamais Mbappé et il sera jamais aussi fort avec sa petite main qui a une hémiparésie. Il sera jamais fort pour tenir sur son pied du côté de l'hémiparésie et il sera certainement jamais vraiment capable de sauter à cloche-pied sur son côté où il a une hémiparésie. Mais finalement, je pense qu'on peut vivre une très belle vie même en ne faisant
bien
pas
sûr.
Ces petites choses-là.
Bien sûr, il pourra faire des randonnées, il pourra faire...
Tout à fait.
Voilà. Un dernier mot avant de conclure cette émission. Valentin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Écoutez, alors moi, déjà encore une fois, merci d'avoir pu nous donner la parole aujourd'hui. Que Gaspard puisse tout simplement continuer de faire ses rééducations, en mixant l'intensif et bien sûr la kiné plus traditionnelle tout au long de l'année, parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut que Gaspard ait accès à la fois, il faut que les enfants atteints de paralysie cérébrale aient à la fois accès, bien sûr, au stage intensif, mais aussi à être suivi par des kinés tout au long de l'année, ne serait-ce que pour, par exemple, Gaspard a des attelles, donc des attelles de jour et de nuit, notamment au niveau du membre inférieur, au niveau du pied. Il y a d'autres enfants qui en ont aussi au niveau des mains. Ces kinés qui voient tout au long de l'année et avec qui ils créent des relations, en fait, c'est grâce à ces kinés que Gaspard peut aussi, peut aussi grandir correctement. Ces kinés-là suivent sa croissance et donc peuvent dire aujourd'hui il faut changer l'attelle est trop petite, etc. Donc voilà, c'est important qu'il y ait quand même un professionnel référent tout au long de l'année au sein de l'enfant, pour l'enfant, pour qu'il puisse évoluer correctement.
Voilà, des kinés comme Audrey Fontaine.
Exactement.
Merci Audrey.
Une toute petite dernière chose, c'est vrai que Gaspard, il y en a plein d'autres, on en a plein au cabinet des comme lui, et c'est vrai que on espère beaucoup que bientôt on pourra avoir plus de sous du gouvernement, etc., pour pouvoir aider au mieux ces enfants et leur permettre d'avoir accès à toutes les bonnes rééducations dont ils ont besoin, et en particulier ces stages intensifs ou ces activités physiques adaptées.
Voilà, et merci aussi à la Fondation Paralysie Cérébrale qui finance la recherche. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.